d'huile de moutarde ou de réfort, ou encore d'extrait de camomille et de sauge. Certains sont à même de lutter non seulement contre les bactéries, mais aussi contre les virus. Notre système immunitaire a ainsi moins de dossiers sur son bureau et peut se concentrer davantage sur sa mission, chasser les gêneurs. Ces produits à base de plantes sont inefficaces si la maladie est plus sérieuse ou se prolonge sans amélioration notable. Ils pourraient même s'avérer nocifs dans la mesure où le patient repousse alors le moment de prendre de vrais antibiotiques. Ces dernières années, les séquelles cardiaques et ORL causées par des maladies infectieuses chez l'enfant ont nettement augmenté. C'est l'une des complications fréquentes qui peuvent survenir quand les parents veulent protéger leurs enfants de trop d'antibiotiques. Une telle décision peut avoir des conséquences graves. Le bon médecin est celui qui ne vous refilera pas des antibiotiques à tout bout de champ, mais vous dira aussi clairement quand ils sont nécessaires. Les antibiotiques ouvrent la porte à des luttes de pouvoir. Nous sortons l'artillerie lourde pour lutter contre les bactéries. Et les bactéries ripostent en développant des résistances encore plus fortes. En toute logique, nos chercheurs devraient alors contrer à leur tour avec un médicament encore plus puissant. En avalant ces médicaments, chacun de nous conclut un pacte. Nous sacrifions nos bonnes bactéries dans l'espoir de combattre les mauvaises. Pour un petit rhume de rien du tout, nous perdons plutôt au change. Mais pour des maladies graves, le jeu en vaut la chandelle. Il n'existe encore aucune liste des espèces de bactéries en voie de disparition. Mais nous pouvons affirmer avec certitude que nous avons éradiqué une bonne partie de notre héritage depuis la découverte des antibiotiques. Mieux vaut ne pas laisser au hasard la place devenue vacante dans notre intestin et la peupler correctement. C'est à cela que servent les probiotiques. Ils aident l'intestin à retrouver son équilibre une fois que les véritables dangers ont été éliminés. Les probiotiques. Chaque jour, nous avalons des milliards de bactéries vivantes. Elles se trouvent sur les aliments crus, certaines survivent aussi à la cuisson, nous mordillons notre petit doigt sans y penser, avalons nos bactéries bucco-dentaires ou embrassons à pleine bouche le paysage bactérien de notre prochain. Une petite partie de ces bactéries résiste à l'acidité gastrique et aux méthodes corrosives de la digestion et se retrouve vivante dans le gros intestin. La majorité de ces bactéries nous est inconnue. Elles sont sans doute inoffensives. Peut-être même ont-elles des bienfaits que nous n'avons pas encore réussi à cerner. Quelques-unes sont des agents pathogènes, mais généralement, elles ne peuvent pas nous faire de mal parce qu'elles sont trop peu nombreuses à la fois. Sur toutes ces bactéries, rares sont celles que nous connaissons de A à Z et qui ont été déclarées bénéfiques par des organismes compétents. Ce sont celles qu'on appelle les probiotiques. Au supermarché, planté devant le rayon frais, nous lisons le mot « probiotique » sur un pot de yaourt. Nous ne savons pas vraiment ce que c'est ni comment cela fonctionne. Mais beaucoup d'entre nous en ont au moins entendu parler à la télé. La publicité nous laisse entendre que ça renforce nos défenses immunitaires, qu'on se sent bien, qu'on se sent beau. C'est chouette. Si c'est comme ça, on veut bien payer 1 euro de plus. Et zou, les probiotiques atterrissent dans notre chariot, puis dans notre réfrigérateur, et enfin dans notre bouche. Depuis toujours, les êtres humains mangent des bactéries probiotiques. Sans elles, nous n'existerions pas. Quelques Sud-Américains qui avaient emmené des femmes enceintes accoucher au pôle Sud en ont fait la douloureuse expérience. Leur idée était de pouvoir puiser plus tard en toute légitimité dans les réserves de pétrole locales, dans la mesure où l'autorisation leur serait accordée par des natifs. Résultat, les bébés ne survécurent pas et moururent au plus tard sur le chemin du retour. Au pôle Sud, l'environnement est si froid et si stérile que les nouveau-nés n'avaient pas reçu suffisamment de bactéries en héritage. Les températures normales et les germes rencontrés sur le chemin du retour suffirent à les tuer. Les bactéries prévenantes jouent un rôle important dans notre vie et dans nos entrailles. Nos ancêtres ne le savaient pas, mais intuitivement, ils avaient déjà développé de bonnes habitudes. Ils protégeaient leur nourriture des mauvaises bactéries de la moisissure en faisant confiance aux bonnes bactéries, dont ils se servaient par exemple pour augmenter la durée de conservation de leurs aliments. Chaque culture recèle quelques plats traditionnels cuisinés par des microbes pleins d'attention. Citons en France la crème fraîche, en Allemagne la choucroute, les concombres marinés ou le pain au levain, en Suisse le fromage à trous, en Italie le saucisson ou les olives, en Turquie l'ayran. Autant de spécialités qui n'existeraient pas sans les bactéries. La cuisine asiatique est très friande de ses spécialités. La sauce de soja, la soupe miso ou le kimchi coréen en sont quelques exemples. En Inde, pensons au lassi. En Afrique, au foufou. Et la liste pourrait être rallongée à l'infini. Ces plats dont la préparation fait intervenir des bactéries sont dits fermentés. La fermentation produit souvent des acides qui donnent par exemple au yaourt ou aux légumes fermentés un goût plus acide que l'aliment de départ. L'acidité et les bonnes bactéries protègent la nourriture des mauvaises bactéries. C'est la méthode la plus ancienne et la plus saine de conserver des aliments. La diversité de ces spécialités illustre aussi la diversité des cultures de bactéries qui présidaient autrefois à leur fabrication. Elles n'étaient pas les mêmes dans le lait caillé d'une famille du Palatinat et dans l'Iran, d'une famille d'Anatolie. Dans les pays méridionaux, on utilisait des bactéries qui aiment bien travailler à des températures estivales, tandis que dans les régions du Nord, on privilégiait les bactéries qui se contentent d'une température ambiante. Le yaourt, le lait caillé ou d'autres produits fermentés ont été découverts par hasard. Quelqu'un a laissé le lait traîner dehors. Des bactéries venues directement de la vache ou bien présentes dans l'air au moment de la traite ont pénétré dans le récipient. Le lait s'est épaissi et, surprise, un nouvel aliment était né. Si le germe du yaourt qui avait sauté dans le lait était particulièrement goûteux, on prélevait une petite cuillère de la délicieuse préparation et on l'ajoutait à une autre portion de lait pour que ces bactéries fabriquent encore plus de yaourt. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire, la production de yaourt était autrefois placée sous la responsabilité d'une vaste équipe composée de différentes bactéries, et pas seulement sous celle de quelques espèces sélectionnées. La diversité des bactéries dans les aliments fermentés a beaucoup diminué. L'industrialisation a entraîné la normalisation des processus, désormais fondée sur quelques bactéries de laboratoire sélectionnées individuellement. Aujourd'hui, après la traite, on chauffe brièvement le lait pour tuer de possibles agents pathogènes. Mais dans le même temps, on élimine aussi les éventuelles bactéries du yaourt. Inutile donc de laisser traîner notre lait de supermarché dans l'espoir d'obtenir un jour du yaourt. Nombre des aliments autrefois conservés grâce aux bactéries sont aujourd'hui conservés avec du vinaigre, comme la plupart des cornichons. Parfois, on fait fermenter l'aliment avec des bactéries, puis on le fait chauffer pour éliminer les germes. C'est par exemple le cas de la choucroute vendue en grande surface. Pour trouver de la choucroute fraîche, il faut chercher dans des magasins de diététique. Dès le début du XXe siècle, la communauté scientifique supposait que les bactéries jouaient pour nous un rôle protecteur fondamental. C'est à cette époque qu'Eli Metchnikoff monte sur la scène du yaourt. Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1908, ce scientifique russe, naturalisé français, observe les paysans des montagnes bulgares dont l'espérance de vie dépasse souvent les 100 ans. Et dans la bonne humeur, s'il vous plaît. Eli Metchnikoff imagine que leur secret réside dans les poches en cuir qui leur permettent de transporter le lait de leurs vaches. Les paysans parcourent de longues distances et quand ils arrivent chez eux, le lait est caillé. Le scientifique est convaincu que la consommation régulière de ces produits faisant intervenir des bactéries est à l'origine de la bonne santé des paysans. Dans son livre « The Prolongation of Life », « La prolongation de la vie », il défend une thèse selon laquelle les bonnes bactéries nous permettraient de vivre mieux et plus longtemps. Dès lors, les bactéries ne sont plus des ingrédients quelconques entrant dans la composition du yaourt, mais un facteur décisif pour notre capital santé. Malheureusement, sa découverte tombe au mauvais moment. Peu avant, les bactéries ont été identifiées comme les agents pathogènes de certaines maladies. En 1905, le microbiologiste Stamen Grigorov isole même Lactobacillus bulgaricus, la bactérie décrite par Ilie Metchnikov, mais il se consacre bientôt à d'autres recherches, notamment au combat contre la tuberculose. Et à partir des années 1940, parallèlement au développement des antibiotiques et à la connaissance de leurs principes de fonctionnement, l'opinion générale s'accorde à dire que moins il y a de bactéries, mieux c'est. Si la théorie d'Elie Metchnikov et la bactérie de Stamen Grigorov ont fini par trouver le chemin de nos supermarchés, c'est à des nourrissons que nous le devons. Les mères qui n'allaitaient pas avaient en effet un problème avec le lait infantile proposé. Leur bébé souffrait plus souvent de diarrhée. Les fabricants de lait en poudre se creusèrent les méninges. Leurs ingrédients étaient pourtant identiques à ceux du lait maternel. Quelle différence pouvait-il y avoir? Que manquait-il? Mais oui, des bactéries! De celles qui s'installent volontiers sur les mamelons laiteux et sont particulièrement fréquentes dans les selles des bébés allaités. Des bifidobactéries et des lactobacilles. Ce sont des bactéries dites lactiques, qui clivent le lactose et produisent du lactate. Un chercheur japonais fabriqua donc un yaourt avec des bactéries Lactobacillus casei shirota, que les mères pouvaient se procurer en pharmacie. Résultat, les bébés qui en prenaient un peu chaque jour avaient moins la diarrhée. La théorie de Metchnikov venait ainsi d'être redécouverte par l'industrie à travers des bactéries pour bébés et avec des objectifs plus modestes. Dans un yaourt classique, on trouve généralement la bactérie Lactobacillus bulgaricus. Rien ne dit cependant que ce soit exactement celle qu'utilisaient les paysans bulgares. La bactérie mise en évidence par Stamen Grigorov porte aujourd'hui le nom de Lactobacillus helveticus, espèce bulgaricus. Ces bactéries ne sont pas particulièrement gastro-résistantes et seule une petite proportion d'entre elles arrive vivante dans l'intestin. Pour certains effets sur le système immunitaire, c'est d'ailleurs sans importance, puisque la seule vue d'enveloppe bactérienne vide suffit déjà à motiver les cellules immunitaires. Inspiré de la recherche sur la diarrhée des nourrissons, le yaourt probiotique contient quant à lui des bactéries qui, dans la mesure du possible, doivent arriver vivantes dans l'intestin. Parmi les bactéries qui résistent au processus de digestion, citons par exemple Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus ou Lactobacillus casei shirota, dont on a parlé plus haut. En théorie, une bactérie bien vivante dans l'intestin a plus de possibilités d'action. Certaines études démontrent leur efficacité, mais l'Autorité européenne de sécurité des aliments ne les juge pas suffisantes. Les slogans publicitaires glorieux, tels qu'ils ont été utilisés par Yakult ou Actimel, sont donc désormais proscrits. L'autre problème, c'est qu'on ne peut pas être sûr à 100% que la quantité de bactéries probiotiques arrivant dans l'intestin est vraiment suffisante. Un couac dans la chaîne du froid ou une digestion particulièrement lente ou acide et les bactéries auront vite l'air moins guillerées. Ça n'est pas grave en soi, mais dans ce cas, un yaourt probiotique ne vaudra pas forcément mieux qu'un yaourt normal. Pour faire bouger les choses dans le vaste écosystème intestinal, il faut qu'environ 1 milliard de bactéries, 10 puissance 9, partent en croisade. Résumons. N'importe quel yaourt peut être bénéfique, mais tout le monde ne supporte pas bien les protéines de lait ou les graisses animales en grande quantité. La bonne nouvelle, c'est que le monde des probiotiques ne s'arrête pas au yaourt. Dans leur laboratoire, les scientifiques testent des bactéries sélectionnées. Ils invitent des bactéries à venir prendre le thé avec des cellules intestinales installées dans des boîtes de pétri. Ils nourrissent des souris avec des cocktails de microbes ou administrent à des êtres humains des gélules pleines de micro-organismes vivants. La recherche sur les probiotiques a ainsi pu dégager trois champs d'action distincts où se révèlent les super-pouvoirs de nos bonnes bactéries. 1. Massage et baume. Nombre de bactéries probiotiques prennent soin de notre intestin. Véritables aides-soignantes, elles sont dotées de gènes qui leur permettent de fabriquer de petits acides gras, comme l'acide butyrique, dont elles se servent pour enduire nos villosités intestinales. Ainsi chouchoutées, les villosités intestinales sont bien plus stables et plus grosses que celles qui n'ont pas eu droit à leur séance de soins. Plus elles sont grosses, plus notre capacité à assimiler aliments, minéraux et vitamines est bonne. Et plus elles sont stables, moins elles laissent passer de déchets. Résultat, le repas livré à notre corps comporte beaucoup de nutriments et moins de substances nocives. 2. Service de sécurité. Les bonnes bactéries défendent notre intestin. Après tout, c'est leur patrie et elles ne sont pas du genre à laisser de mauvaises bactéries leur piquer la place. Elles vont par exemple s'installer juste à l'endroit où des agents pathogènes aiment venir nous faire du mal. Quand la vilaine bactérie arrive, elles sont déjà assises à sa place favorite et le sourire railleur s'empresse de poser leur sac à main sur le siège d'à côté pour occuper encore plus de place. Si ce signal n'est pas suffisamment clair, aucun problème. Les bactéries embauchées au service de sécurité ont plus d'un tour dans leur sac. Elles peuvent aussi fabriquer de petites doses d'antibiotiques et d'anticorps avec lesquelles elles repousseront les bactéries étrangères qui oseraient pointer le bout de leur nez. Elles ont également recours à différents acides, car l'acidité ne sert pas qu'à protéger le yaourt et le chou des bactéries de la décomposition. Dans notre intestin, elle rend les lieux si peu accueillants que les mauvais germes préfèrent ne pas y rester. Autre possibilité, une méthode qu'on pourrait appeler la méthode « je te prends ton pain ». Ceux qui ont des frères et sœurs sauront ce que j'entends par là. Certaines bactéries probiotiques semblent apprécier un sport qui consiste à systématiquement chiper la nourriture des mauvaises bactéries. Arrive un moment où les méchants en ont assez et ils débarrassent le plancher. 3. Conseils et coaching. Enfin, dernier point et non des moindres, quand on parle de bactéries, les plus qualifiés sur la question sont les bactéries. En travaillant en étroite collaboration avec notre intestin et nos cellules immunitaires, elles nous font passer des informations top secrètes et de précieux conseils. À quoi ressemblent les différentes membranes externes des bactéries? Quelle quantité de mucus protecteur doit être produite? Quelle quantité d'antimicrobiens ou défensines les cellules intestinales doivent-elles fabriquer? Le système immunitaire doit-il réagir plus activement à l'intrusion de substances étrangères ou lui faut-il, au contraire, rester cool et accepter la nouveauté? Dans un intestin en bonne santé, les bactéries probiotiques sont légion. Nous profitons chaque jour et chaque seconde de leurs compétences. Parfois, il arrive cependant que nos communautés bactériennes soient mal en point, par exemple à cause d'un traitement antibiotique, d'une mauvaise alimentation, d'une maladie, du stress, j'en passe et des meilleurs. Nos aides-soignantes sont alors débordées. Les services de protection ne sont pas assurés à 100% et nos conseillers sont injoignables. Une chance que certains des résultats dégagés par la recherche en laboratoire soient déjà en pharmacie. On peut s'y procurer des bactéries vivantes qu'on embauchera comme intérimaires dans les périodes difficiles. C'est bon pour lutter contre la diarrhée. Voilà la compétence numéro 1 des probiotiques. En cas de grippe intestinale ou de diarrhée liée à la prise d'antibiotiques, différentes bactéries disponibles en pharmacie peuvent contribuer à réduire les symptômes et à écourter d'une journée en moyenne cet épisode désagréable. En outre, elles ne présentent quasiment aucun effet secondaire, à la différence des autres antidiarrhéiques. C'est ce qui les rend particulièrement intéressantes pour les enfants ou les personnes âgées. Dans les maladies digestives, telles que la colite ulcéreuse ou le syndrome de l'intestin irritable, les probiotiques peuvent espacer les épisodes diarrhéiques et inflammatoires. C'est bon pour le système immunitaire. Souvent malade, cela peut valoir le coup de tester différents probiotiques, notamment quand les températures baissent. Si le traitement vous paraît trop cher, vous pouvez aussi manger un yaourt par jour. Les bactéries ne doivent pas forcément être vivantes pour nous faire profiter de quelques effets bénéfiques légers. Plusieurs études ont montré que les rhumes étaient moins fréquents ou moins sévères avec une consommation régulière de probiotiques, notamment chez les personnes âgées et les sportifs très sollicités. C'est peut-être bon pour lutter contre les allergies. Cette compétence des probiotiques n'est pas aussi bien démontrée que leur influence sur la diarrhée ou les faiblesses du système immunitaire, mais pour les parents dont les enfants présentent un haut risque d'allergie ou de dermatite atopique, les probiotiques restent malgré tout une option intéressante. Un grand nombre d'études a mis en évidence un effet protecteur net. D'autres, moins nombreuses, n'ont pas pu le démontrer, mais il faut dire que les bactéries utilisées pour les essais sont souvent différentes. Personnellement, je serais ici partisane du « mieux vaut trop que pas assez ». Les probiotiques ne sont en aucun cas nocifs pour les enfants menacés d'allergie. Et dans certaines études, portant sur des cas d'allergie ou de dermatite atopique, déjà déclarés, les symptômes ont pu être atténués. Au-delà des domaines relativement bien étudiés que sont la diarrhée, les maladies de l'intestin et le système immunitaire, d'autres champs de recherche ont récemment fourni des résultats prometteurs. Citons par exemple les troubles digestifs, la diarrhée du voyageur, l'intolérance au lactose, le surpoids, les troubles articulaires inflammatoires ou même le diabète. Si l'on veut tenter le coup des probiotiques pour lutter contre l'un de ces problèmes, par exemple contre la constipation ou les ballonnements, il faut savoir que le pharmacien ne peut pas nous recommander de préparation dont l'effet a été confirmé à 100%. Il ne peut pas aller plus vite que la recherche. C'est donc à nous d'expérimenter un peu jusqu'à trouver une bactérie qui améliore la situation. C'est simple. On regarde sur l'emballage ce qu'on est en train de tester, on suit le traitement pendant 4 semaines et si, au bout de cette période, rien n'a changé, on peut passer à autre chose et donner leur chance à une ou deux autres bactéries. Parmi les gastro-entérologues, certains sont aussi en mesure d'aiguiller leurs patients sur les bactéries qui peuvent les aider. Les règles à suivre sont les mêmes pour tous les probiotiques. On les prend de manière régulière pendant 4 semaines et on les utilise avant la date limite de consommation, sans quoi il n'y a pas assez de bactéries vivantes pour agir sur le vaste écosystème intestinal. Avant d'acheter des produits probiotiques, on se renseigne toujours pour savoir s'ils sont vraiment conseillés dans le cas des troubles rencontrés. Les bactéries ont des gènes différents. Certaines sont plus douées pour conseiller le système immunitaire, d'autres sont plus belliqueuses quand il s'agit de chasser un agent responsable de la diarrhée. À ce jour, les probiotiques les mieux étudiés sont les bactéries lactiques, lactobacilles et bifidobactéries, et la levure Saccharomyces boulardii. Je l'avoue, celle-ci ne reçoit pas ici toute l'attention qu'elle mérite. Mais c'est que c'est une levure, pas une bactérie, et elle m'est donc moins sympathique. En tant que levure, elle présente cependant un atout inattaquable. Les antibiotiques ne peuvent rien contre elle. Sous antibiotiques, alors que nous chassons du paradis tout ce qui est bactérien, la levure Saccharomyces, elle, peut s'installer. Elle nous protège ainsi d'opportunistes moins sympathiques, sans compter qu'elle peut aussi lier les toxines. Cela dit, elle a aussi plus d'effets secondaires que les probiotiques bactériens. Elle est parfois mal supportée et peut causer des exanthèmes. Mis à part une ou deux levures, nous ne connaissons en matière de probiotiques presque que des bactéries lactiques. C'est dire tous les progrès que nous avons encore à faire. En réalité, les lactobacilles sont généralement peu présents dans l'intestin humain adulte et les bifidobactéries ne sont sans doute pas les seuls facteurs santé à se promener dans notre gros intestin. À ce jour, seul un autre genre de bactéries probiotiques a été étudié, E. coli 1917. Ce genre d'E. coli a été isolé à partir des excréments d'un soldat revenu du front pendant la guerre des Balkans. Tous ses camarades avaient été victimes d'une diarrhée sévère, mais pas lui. Depuis, de nombreuses études ont pu confirmer que cette bactérie pouvait être efficace en cas de diarrhée, de troubles digestifs ou de faiblesse du système immunitaire. Le soldat est mort depuis longtemps, mais sa talentueuse bactérie E. coli continue de se reproduire en laboratoire, puis d'être emballée avant de se retrouver sur les étagères des pharmacies et de là, dans les intestins de nos contemporains où elle remet de l'ordre. L'action des probiotiques, quels qu'ils soient, est encore limitée. Les bactéries que nous ingérons sont sélectionnées dans un laboratoire et dès que nous ne les prenons plus au quotidien, elles disparaissent généralement de notre intestin. Chaque intestin est unique et compte des habitués qui cèdent ou se combattent. Dans ce contexte, Une bactérie soudain tombée du ciel n'aura pas vraiment son mot à dire quand il sera question d'attribuer les parcelles disponibles. Aujourd'hui, les probiotiques fonctionnent donc surtout comme une cure de soins. Quand on cesse de les prendre, c'est au tour de la flore intestinale d'assurer. Pour des résultats à plus long terme, on lorgne depuis peu du côté d'une stratégie d'équipe mixte. Il s'agit de réunir plusieurs bactéries différentes qui s'entraident pour s'installer en terrain inconnu. Les unes gèrent les déchets des autres ou fabriquent de la nourriture pour leurs collègues. Certains des produits vendus en pharmacie, parapharmacie et grande surface misent déjà sur ce principe en réunissant dans une seule équipe différentes bactéries lactiques qui se connaissent bien. Effectivement, elles se montrent alors plus performantes. En revanche, l'idée d'utiliser cette méthode pour installer de manière durable des bactéries dans notre intestin a beau être séduisante, il faut avouer qu'à ce jour, elle n'a pas donné beaucoup de résultats, pour ne pas dire aucun. En poussant à l'extrême la stratégie d'équipe mixte, on obtient au contraire des résultats impressionnants. Prenons l'exemple du traitement aujourd'hui proposé contre les infections à Clostridium difficile. Il s'agit d'une bactérie qui résiste bien aux antibiotiques et peut ensuite coloniser la place devenue vacante dans l'intestin. Les patients ont parfois pendant plusieurs années des diarrhées sanglantes et glaireuses que ni les antibiotiques ciblés, ni les préparations probiotiques ne peuvent combattre efficacement. C'est le genre de problème qui épuise le corps, mais aussi le mental.